Avec vous Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous. 6 mois de prison avec sursis pour Philippe Barbarin. Le cardinal a été reconnu coupable de non-dénonciation d'agression sexuelle sur des mineurs de moins de 15 ans. Ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel.
Les surveillants pénitentiaires toujours en colère. 2 jours après l'agression de leur collègue à Condé-sur-Sarthe, FO et la CGT appellent à la mobilisation.
Nouveau drame lié à des migrants, cette fois au large de la Grèce. Un bateau avec 12 personnes à bord a chaviré cette nuit, faisant 3 morts, un père et ses 2 enfants.
L'invité du journal sera Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Nous évoquerons la place des femmes en politique.
Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous Marie Richard.
Et seconde partie en 2 parties puisqu'on rendra hommage à Jean Starobinski, mais aussi on entendra le philosophe Marc Alizart sur Bitcoin et communisme tout à l'heure.
À tout à l'heure. Philippe Barbarin a donc été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur des mineurs de moins de 15 ans. Le suspect dans cette affaire, le père Prénat, n'a pas encore été jugé. Le cardinal était absent lors de l'annonce de cette décision de justice, mais ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel. À Lyon, la correspondance de notre envoyé spécial Jean-Philippe Degnaud.
C'est une demi-surprise ici, car même si le parquet avait classé sans suite et s'il n'avait rien requis à l'audience, l'archevêque de Lyon avait été malmené, mis en difficulté par les questions des magistrats. D'ailleurs, dans l'énoncé du jugement ce matin, les termes sont sévères. Il a préféré, dit le tribunal, prévenir Rome au lieu d'alerter la justice. En attendant la réaction du cardinal, à 13h à la maison diocésaine, derrière la cathédrale Saint-Jean, son avocat est déjà monté au créneau. Jean-Félix Luciani a dit qu'il allait faire appel et, sans parler de pression médiatique, il a expliqué qu'il n'avait jamais vu pareille déferlante avant un procès. Les parties civiles, les 9 victimes plaignantes, viennent de partir dans une brasserie proche du tribunal pour digérer cette décision qu'elles présentent comme une victoire. La plus importante depuis 4 ans est la création de la parole libérée. Tous parlent d'un soulagement pour eux et pour leurs proches et ils demandent clairement la démission du cardinal Barbarin.
Correspondance signée Christophe Vincent. Effectivement, nombreuses sont les réactions depuis ce matin. Donc certains appellent à la démission du cardinal Barbarin, on vient de l'entendre. C'est le cas de Gino Well, il est le directeur de la revue chrétienne de gauche Golias.
Si le cardinal Barbarin ne présente pas sa démission, ce serait absolument impensable. S'il ne le fait pas et que Rome n'agite pas, ce serait encore plus impensable. Il faut maintenant que Rome décharge le cardinal Barbarin de sa charge d'archevêque de Lyon. Et puis, avance aussi de son côté par rapport aux abus sexuels. Cette condamnation du cardinal Barbarin, dont le pape François disait que c'était un missionnaire et qu'il avait fait toutes les choses comme il le fallait, c'est la preuve que le cardinal Barbarin a d'une certaine manière aussi, il faut bien le dire, enfumé le pape sur sa situation en expliquant à sa façon. Le pape a écouté, il a fait confiance et puis encore une fois le pape s'est fait avoir parce que je pense que le pape se fait avoir de temps en temps par certains de ses collègues évêques et archevêques.
Les surveillants pénitentiaires toujours en colère ce matin, 2 jours après l'agression de 2 surveillants par un détenu radicalisé et sa compagne dans la prison de Condé-sur-Sarthe. 2 syndicats appellent à la mobilisation, Force ouvrière et la CGT. Bonjour Roméo Van Maastricht.
Bonjour.
Plusieurs centres pénitentiaires sont encore bloqués ce midi.
Oui, l'administration pénitentiaire dénombre 10 prisons bloquées, tandis que Force ouvrière fait état de 80 établissements à l'arrêt. Ils sont plus de 150 gardiens de prison devant celle de Condé-sur-Sarthe en ce moment. Des barrages de pneus et de palettes bloquent l'accès à la prison. Sur les banderoles des manifestants, des slogans « Juste le droit de se faire tuer, surveillant en danger ». Depuis hier, les revendications portent principalement sur la sécurité des surveillants pénitentiaires. Ils souhaitent que les détenus instables ou dangereux soient incarcérés dans des établissements spécialisés et encadrés par un personnel formé pour les maîtriser. Des équipements plus complets sont également demandés, tels que des gilets par coup. De même, les syndicats contestent l'article 57 de la loi pénitentiaire. Il n'autorise les fouilles intégrales que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants.
Et aujourd'hui, leurs revendications vont plus loin.
Oui, elles portent également sur les salaires dont ils veulent une revalorisation. Aujourd'hui, un surveillant pénitentiaire gagne chaque mois entre 1400 et 1500 euros net. Pour des conditions de travail peu avantageuses, ils sont amenés à travailler de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les syndicats exigent de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, une refonte totale du système pénitentiaire, que les textes de loi évoluent. Ce mouvement social est quasiment le même que celui de janvier 2018. Des grèves avaient touché plusieurs prisons de France après l'agression de 3 surveillants par un prisonnier radicalisé à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais.
Merci Roméo Van Maastricht. Beaucoup de perturbations ce matin sur l'Eurostar. Le train qui relie Londres à Paris subit des retards jusqu'à 2 heures au départ de la gare du Nord. Depuis le début de la semaine, les agents des douanes ont entamé une grève du zèle dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ils effectuent des contrôles plus poussés, bloquant ainsi de nombreux camions voulant se rendre en Angleterre. Les douaniers demandent des moyens supplémentaires en vue du Brexit, Bastien Roch.
La perspective d'une sortie sans accord notamment les inquiète. Les douaniers demandent en premier lieu plus d'effectifs, mais aussi une revalorisation de leurs heures de nuit et de leurs primes de risque. Le danger, selon eux, c'est d'avoir plus de contrôles à effectuer sur les marchandises ou les passagers, et donc un engorgement. Une crainte partagée outre-Manche. Il y a 2 semaines, le Financial Times dévoilait un rapport confidentiel du gouvernement britannique. Ce rapport dessine un tableau apocalyptique en cas de no deal. Des files d'attente de 15 000 personnes à la gare de Saint-Pancras, plus d'1,5 km de queue. Des estimations largement exagérées selon Aurélien Antoine, le directeur de l'Observatoire du Brexit.
Que ce soit du côté britannique, du côté français par exemple, les effectifs ont été renforcés, de mesures ont été prises. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un premier temps, les normes qui s'imposent par exemple sur les produits qui circulent au Royaume-Uni seront toujours les mêmes par rapport à l'Europe. Donc ce qui va sans doute se passer, c'est que dans un premier temps, il y aura une certaine opération de maintien des choses en l'état, sans doute des contrôles à l'arrivée des marchandises ou au départ des marchandises, pour essayer un maximum d'éviter les tensions sur les postes de frontières. Mais je sais pas, vous aviez peut-être vu il y a quelques semaines la simulation qui avait été faite près de Douvres au Royaume-Uni avec des queues de camions, etc. Il n'est pas du tout certain que cela se produise en réalité.
Côté français, en tout cas, le ministère de l'économie a déjà annoncé le recrutement de 700 douaniers supplémentaires en novembre dernier. Les représentants syndicaux seront quand même reçus en début de semaine prochaine par le ministre Gérald Darmanin.
Merci Bastien Roch. Emmanuel Macron en PACA, le chef de l'État s'y déplace dans le cadre du grand débat. Il y échange en ce moment même avec 400 élus et des jeunes à Gréoux-les-Bains. Parmi les thèmes abordés, l'environnement. Bonjour Steven Goyer.
Bonjour.
Le grand débat est censé s'arrêter la semaine prochaine, mais Emmanuel Macron devrait poursuivre ses déplacements en région.
Il avait promis le 10 décembre dernier de rencontrer les élus de toutes les régions. Seulement, le président de la République a un agenda serré et il sera très compliqué, pour ne pas dire impossible, de terminer ces discussions d'ici la fin de la semaine prochaine. Emmanuel Macron devrait donc déborder du cadre de l'agenda fixé pour le grand débat national en organisant des réunions en Pays de la Loire, en Bretagne ou encore en Corse, jusqu'à la fin du mois de mars, voire même début avril. D'autant qu'il reste des thèmes encore assez peu abordés lors des 9 précédents débats. On en a un bon exemple aujourd'hui avec la question de l'environnement, de la transition écologique. Depuis tout à l'heure, on entend des mots comme développement durable, préservation des ressources ou encore de la biodiversité. Des termes assez peu revenus jusqu'ici, et le retour de cette thématique écologique n'a peut-être rien du hasard. D'abord parce qu'elle permet d'offrir un écho à l'un des points importants soulevés dans la tribune du président de la République et diffusé à travers l'Europe mardi, avec des propositions comme la création d'une banque européenne du climat ou la division par 2 des pesticides d'ici 2025. Ensuite, parce qu'il ne faut pas oublier que les élections européennes approchent et que Emmanuel Macron souffre d'un certain manque de crédibilité sur la question écologique, notamment depuis le départ fracassant de Nicolas Hulot du gouvernement. Il y a donc un certain retard à rattraper sur le sujet, d'autant que les listes écologistes ont bien souvent le vent dans le dos lors du scrutin européen et que la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, a récemment positionné sa campagne sur un ni droite ni gauche mais central, créneau pour le moment occupé par La République En Marche.
Merci Steven Goyer. Constat affligeant qui n'aura pas surpris les 3 collectifs de femmes soucieux de dénoncer les violences sexistes et sexuelles au travail. Les salariés des médias n'y échappent pas et loin de là. Prenons La Une, Nous Toutes et Payton Journal qui ont mené une enquête en ligne publiée aujourd'hui avec le journal Le Monde. Plus de 1800 personnes issues de 270 rédactions, dont celle de Radio France, ont répondu à un questionnaire qui a également été soumis aux écoles de journalisme. Bonjour Mathieu Laurent.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Constat affligeant donc, les auteurs de cette enquête parlent de violences massive.
Oui, l'enquête distingue les témoins ou victimes d'agissements sexistes. 1503 témoins témoignages recueillis. Propos à connotation sexuelle au nombre de 1253, 301 personnes ont détaillé ce qui leur est arrivé. L'enquête a même recensé deux viols. 80% des victimes sont des femmes, 76% d'entre elles ont moins de 40 ans. Léonore Guinoun est membre du collectif Nous Toutes.
Ce sont les femmes qu'on dit qu'elles sont racisées ou dont on suppose qu'elles sont racisées. 64% des femmes racisées déclarent avoir été victimes de propos à connotation sexuelle, alors que la moyenne pour les autres répondantes en général, elle est de 49%. L'autre catégorie, entre guillemets, de femmes qui est plus touchée, ce sont les pigistes. Le support où la moyenne est la plus haute, c'est à la presse télé, mais la presse écrite, la presse radio et les pure players sont aussi concernés, avec le minimum, il est à 32% pour les pure players.
Autre enseignement, les élèves en école de journalisme, en classe comme en stage, n'échappent pas aux auteurs de ces violences. Quand les victimes trouvent les forces pour livrer leur témoignage aux hiérarchies, dans 66% des cas, il ne se passe rien. D'où l'appel que lance aux directions Agathe Rank, journaliste et membre, elle, du collectif Prenons la Une.
Il faut vraiment qu'il y ait un peu, une libération de l'écoute. Il faut que les rédactions nomment des référents sur le harcèlement sexiste et sexuel. Il faut que les rédactions aient des démarches claires et que les salariés soient informés de ce qu'ils peuvent faire, quels recours ils ont quand il leur arrive quelque chose. Et il faut qu'ils aient surtout l'assurance qu'ils seront écoutés par leur direction s'il leur arrive quelque chose comme ça.
Libération de la parole, vert, et pour une libération de l'écoute, tant que l'employeur a obligation légale de protéger ses salariés. Et les médias ont eu vocation à écouter souffrance et outrance pour les livrer au libre arbitre de tout un chacun.
Merci à vous Mathieu Laurent. L'invité de ce journal est la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos. Bonjour madame.
Bonjour.
On vient de l'entendre, le constat des violences faites aux femmes dans les médias est accablant. Les médias, souvent un peu donneurs de leçons. On vient de l'entendre, c'est un constat qui vous surprend ?
C'est surtout un constat qui est malheureusement réel, qu'il soit dans n'importe quel, je dirais, corps professionnel. Ce qui est important de dire, c'est qu'il ne faut rien laisser passer. Il faut continuer à ce que les femmes dénoncent ces propos ou ces actes auxquels elles sont quotidiennement ou pas quotidiennement, mais sur lesquels elles sont victimes. Et c'est dans cette dénonciation qu'on va pouvoir faire évoluer et continuer à pouvoir avancer dans le bon sens dans ce cadre-là. Donc, c'est peut-être pas uniquement là, c'est le sujet des médias et du journalisme, mais je crois que dans beaucoup d'autres secteurs, c'est présent et il faut continuer à dénoncer pour faire avancer et faire progresser cette problématique, pour la faire entendre.
Question de Rosalie Lafarge du service politique.
Christelle Dubos, c'est demain la journée internationale des droits des femmes. Quand on parle de la place des femmes en politique, souvent on brandit la parité. C'est suffisant comme réponse, la parité ?
Je pense que moi, je vais d'abord revenir sur mon expérience qui est récente en politique. Depuis 2014, je suis élue locale. J'ai été donc députée en 2017 et maintenant je suis secrétaire d'État. Je n'ai peut-être pas connu toutes les situations telles que mes consoeurs ont pu la connaître. Ce que je tiens moi à dire, c'est que il faut pas une parité pour une parité. Nous avons besoin de femmes. C'est important que les femmes s'engagent. C'est important que les femmes soient présentes, pas par rapport à un chiffre, mais par rapport à la sensibilité qu'elles apportent, par rapport au regard et par rapport à ce croisement, je dirais, de connaissances qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus sensible, humain, et qui représente l'ensemble de la population, je dirais, française. Et donc ce regard est important, pas au titre du chiffre, mais au titre de la sensibilité qu'apportent les femmes.
Mais c'est toujours compliqué, on le voit, je suis désolée, avec les chiffres, 39% de femmes à l'Assemblée, c'est un record, nous dit un premier bilan. Mais comme d'habitude, quand on va dans les postes à responsabilité, le ratio baisse, c'est toujours trop compliqué pour les femmes de monter.
C'est pas toujours trop compliqué, c'est une volonté. Regardez au niveau du gouvernement, nous sommes à la parité, donc ça c'est aussi...
Plus depuis la nomination d'Adrien Taquet.
Non, bien évidemment, mais jusqu'à présent, nous étions à la parité. Quand on a un chiffre impair, parfois on est un peu compliqué pour avoir une parité, mais c'est important, c'est une reconnaissance, et je tiens à dire en effet que au-delà du chiffre, c'est surtout en termes de compétences, en termes cette sensibilité-là, mais sur lequel, si les femmes sont pas présentes, on ne peut pas aller les chercher. Donc il faut qu'elles continuent à s'engager, il faut qu'elles continue à être présente, et c'est un travail, mais pas présente qu'au niveau national, c'est présente aussi localement, dans des associations, en tant qu'élu local, etc., sur lequel elles peuvent faire valoir ce travail-là et cette sensibilité qu'elles ont, et ça c'est important. Donc cet engagement, il doit être quotidien, on doit continuer, et le progrès doit permettre en effet de pouvoir faire avancer cette belle cause.
Et cet engagement, il peut se faire justement au niveau européen. Est-ce qu'une femme pour emmener la tête de liste LREM aux élections européennes, ce serait par exemple un beau symbole ?
ça pourrait être un beau symbole, en effet. Un homme ou une femme, après, c'est les compétences. Je reviens aussi sur la question des compétences. Est-ce qu'il faut mettre une femme pour le symbole ou est-ce qu'il faut mettre une personne qui a les compétences de porter le beau projet que nous avons pour l'Europe ?
Agnès Buzyn, elle a les compétences, par exemple, la ministre de la Santé ?
Je vais pas répondre à sa place si elle est partante ou pas. Je sais juste que moi, j'ai plaisir à travailler avec elle. Nous faisons, je pense, une belle équipe avec Adrien Taquet qui nous a rejoint il y a pas très longtemps et sur lequel j'ai plaisir à travailler avec elle. C'est une grande dame qui est pleine d'humanité, qui a vraiment ce côté humain très important et qui est d'une grande richesse pour moi.
L'un de vos gros dossiers, Christelle Dubos, c'est celui des pensions alimentaires, oui. Et avec le problème des impayés. Comment on fait aujourd'hui pour limiter ces impayés qui sont très nombreux ?
Alors, comment est-ce qu'on fait ? Déjà, depuis quelques mois et quelques semaines, nous travaillons bien évidemment à avoir des propositions suite au grand débat sur les familles monoparentales et sur la question de la pension alimentaire. C'est un sujet qui est préoccupant et qu'il sera de plus en plus parce que les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses et elles ne sont plus une exception. Donc nous devons répondre et 1 million de familles monoparentales bénéficient d'une pension alimentaire.
20 à 40% ne l'aperçoivent pas.
Exactement, l'aperçoivent pas totalement ou de façon incomplète. Donc c'est pour ça qu'en 2017 a été créée l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire adossée au CAF qui permet d'aller recouvrir le conjoint qui ne paye pas la pension ou qui la paye partiellement et en versant une allocation de soutien familial qui vient compenser ce manque de versement de pension alimentaire.
Le groupe Terra Nova, le groupe de réflexion, a proposé justement cette semaine qu'une agence publique soit chargée plus précisément de toucher et de verser des pensions pour essayer de limiter encore plus les impayés. Est-ce que ça fait partie des pistes de réflexion ?
Ça fait partie des pistes de réflexion et ça fait partie d'un des rapports et d'une des propositions que nous étudierons avec, je dirais, sérieux et approfondissement parce qu'il est, à mon avis, très riche pour nous de pouvoir réfléchir sur une éventuelle possibilité.
Si on reste sur le volet financier, appelons-le comme ça, Christelle Dubos, il y a quelque chose qui revient dans le grand débat, c'est l'éventualité de renforcer les contreparties aux aides sociales. Vous n'y êtes personnellement pas favorable, contrairement apparemment au Premier ministre. Qui va gagner ?
Alors, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas en opposition avec le Premier ministre et nous disons la même chose, c'est que quand le Premier ministre repose la question dans le cadre du grand débat, c'est une question qui était inscrite dans le cadre du grand débat sur le thème démocratie-citoyenneté. D'abord, elle permet de faire tomber des images négatives sur les bénéficiaires des minima sociaux qui sont ils peuvent cumuler, ils sont pas obligés d'aller travailler, etc. Ça permet de faire tomber ces images-là et ces clichés. Deuxièmement, la contrepartie existe déjà. Lorsque le RMI a été créé il y a 30 ans, puis le RSA, la première contrepartie, c'est une obligation d'accompagnement.
Mais est-ce qu'il faut renforcer ces contreparties ?
L'accompagnement que nous, on va proposer, et ça fait partie du travail sur le revenu universel de l'activité, dont la concertation commence dans quelques semaines après le grand débat, ça va être cette concertation qui va permettre de dire quelles contreparties on met dedans. L'objectif étant d'accompagner vers une reprise d'activité ou d'emploi, mais l'accompagnement, qu'est-ce qu'on entend par accompagnement ? Ça veut dire que déjà les mesures qui sont apportées dans le cadre de la formation du demandeur d'emploi, dans le cadre du développement de 100 000 postes supplémentaires, de l'insertion par l'activité économique, dans le cadre d'un accompagnement global de ces personnes, rendons l'accompagnement réel et efficace avant d'imposer, je dirais, une contrepartie qui serait punitive. Pour moi, la seule chose que je ne veux pas, c'est des contreparties punitives et de laxisme. Donc nous devons apporter un bel accompagnement et permettre à ces personnes-là qui bénéficient des minima sociaux de se réinsérer, de retrouver une activité, de vivre pleinement du fruit de leur travail. Et je dirais juste que première contrepartie, ça reste en fait la pauvreté.
Un dernier mot, Christelle Dubos, sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Le gouvernement a dit vouloir prendre le temps sur la loi bioéthique. Son examen sera repoussé à 2020 si nécessaire. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire si oui ou non la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'étendre la PMA à toutes les femmes sera tenue avant la fin du quinquennat ?
C'est un engagement présidentiel, c'est un engagement qui sera tenu sur la PMA. Le travail continue sur la loi bioéthique. Les débats ont lieu au niveau du ministère avec les parlementaires, avec les contributeurs, je dirais, de la réflexion. Et donc, les débats aura bien lieu et le texte sera bien voté avant la fin du quinquennat.
La promesse sera tenue. Merci beaucoup, Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Et merci à vous, Rosalie Lafarge. Merci également à François Rivalan à la technique. Midi 49 sur France Culture. Nouveau drame lié à des migrants, cette fois au large de la Grèce. Un bateau avec 12 personnes à bord a chaviré cette nuit, faisant 3 morts, un père et ses 2 enfants. Avec le beau temps, les réfugiés sont de plus en plus nombreux à traverser la mer Égée à partir de la Turquie pour atteindre les côtes des îles grecques, malgré les patrouilles incessantes de la Frontex, l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Europe. À Thessalonique, les précisions d'Angélique Kouronis.
Le message d'alerte avait été donné hier soir et très tôt, les gardes-côtes grecs ont localisé 11 naufragés, dont plusieurs enfants qui nageaient en pleine nuit au large de l'île de Samos. Selon les rescapés, leur petit bateau a pris l'eau alors qu'il s'approchait des côtes grecques. Une personne manquait à l'appel, un homme. Son corps a été retrouvé ce matin. Ses enfants, 2 petits garçons jumeaux de 4 ans et demi, sont morts, eux, lors de leur transport à l'hôpital. On ne sait pas alors qu'il est si leur mère se trouve parmi les passagers. La semaine dernière, 46 autres réfugiés avaient été sauvés in extremis dans la même région. Depuis le mois de septembre, plus de 16 000 demandeurs d'asile sont arrivés en Grèce. À l'île de Samos, 4 500 personnes s'entassent dans un camp prévu pour 600 dans des conditions effroyables. Certains migrants ont reçu des dates de rendez-vous pour leur demande d'asile pour juillet 2020, d'autres pour l'année 2021. Une telle attente rend la situation sur place explosive et avec les beaux jours qui s'installent, tout le monde redoute une forte reprise des arrivées massives de migrants sur les îles grecques. Athènes a à plusieurs reprises demandé à l'Union européenne de procéder aux relocalisations promises, un programme pratiquement resté lettre morte.
Un millier d'avocats du barreau d'Alger manifestent devant le siège du Conseil constitutionnel. Ils réclament l'invalidation de la candidature à un cinquième mandat du président sortant. Abdelaziz Bouteflika est toujours hospitalisé en Suisse, officiellement pour des examens médicaux. Mais en Algérie, les autorités assurent que la situation est sous contrôle. À Alger, la correspondance de Leïla Berato.
La première réaction officielle aux informations publiées par le journal suisse La Tribune de Genève est venue du directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Dans une interview au quotidien arabophone Al Khabar, il assure que le président est à Genève pour des examens médicaux périodiques, que son état de santé ne pose aucun problème et que même si son état physique n'est plus le même qu'avant, les informations qui circulent sont dénuées de fondement. Pourtant, cela fait désormais 11 jours qu'Abdelaziz Bouteflika est en Suisse. En 2014, alors que l'état de santé du président était déjà fragilisé, il s'était rendu au Conseil constitutionnel pour déposer son dossier. Son absence, dimanche, a provoqué beaucoup de commentaires sur la légalité ou non de cette procédure de candidature par procuration. Deux textes s'opposent, le règlement du Conseil constitutionnel et la loi électorale. Certains Algériens ont trouvé une manière de dénoncer la situation en saturant d'appels téléphoniques l'hôpital suisse où est hospitalisé le président. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de vidéos circulent où l'on voit des personnes appeler le standard, demander des nouvelles ou demander à ce que l'on garde le président en Suisse. Une manifestation d'Algériens a aussi été organisée devant l'hôpital de Genève.
C'est une vidéo qui fait polémique au Brésil. Le président Bolsonaro a diffusé hier soir sur son compte Twitter une vidéo de 40 secondes où l'on voit un homme uriner sur un autre en pleine rue pendant le carnaval, la grande classe. Son accès a été restreint depuis, mais elle a été vue par plus de 2 millions de personnes et elle suscite de nombreuses réactions parmi la population, mais aussi au sein de la classe politique brésilienne. Valérie Crova.
Voici ce que sont devenus de nombreux groupes de carnaval de rue. C'est par ce commentaire que le président brésilien a rendu public sur Twitter une vidéo tournée à Sao Paulo dans laquelle deux hommes perchés sur une estrade se prêtent à une golden shower, une douche d'urine. Commentez et tirez vos conclusions, ajoute-t-il, ce qui n'a pas tardé. De nombreux internautes se sont indignés que le président brésilien ait mis l'accent sur une scène isolée pour dénigrer le carnaval, une institution au Brésil. D'autres lui reprochent d'avoir diffusé cette vidéo obscène sur un réseau social que les mineurs peuvent également voir. Dans un communiqué, Jair Bolsonaro a répliqué et affirmé que cette publication ne visait pas à critiquer le carnaval. Il n'empêche, le président d'extrême droite n'a sûrement pas apprécié les nombreuses caricatures et critiques qui le visaient lors des défilés, symbole d'un hédonisme banni par les églises évangéliques qui le soutiennent. Dans la classe politique, ses adversaires s'en donnent à cœur joie. Bolsonaro n'a pas dépassé le stade anal de Freud, a commenté un député d'un parti de gauche, tandis qu'un hashtag a fait son apparition et réclame sa destitution.
Le gouvernement populiste italien indique vouloir rediscuter avec la France et l'Union européenne de la pertinence du controversé projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin, ainsi qu'une éventuelle répartition différente de ses coûts économiques. Le gouvernement estime que de récentes estimations, notamment en matière de volume de trafic sur les rails, imposent de rediscuter le projet. Cet après-midi, le temps sera instable sur la majeure partie du pays, alternance de nuages, de pluie et d'éclaircies. C'est seulement sur les côtes méditerranéennes que le soleil dominera. Température stable, 10 à Lille, 11 à Paris, 14 à Biarritz, 18 à Nice. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Maxime Fayolle.